Bonjour à tous, l'actualité de ce mardi 20 février dans les Alpes du Sud est à la une des engagements financiers de la région PACA dans les chantiers d'insertion, des chantiers qui proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi. Ces structures vivent essentiellement de subventions publiques. Dans les Hautes-Alpes, la sonnette d'alarme est tirée. 3600 bêtes y sont abattues chaque année, mais l'abattoir de Gap est vieillissant. Il est de plus, selon les professionnels, mal adapté au volume de production. Il demande un programme d'investissement. Opération de décolmatage de la Durance aujourd'hui entre les barrages de l'Escale et de Cadarache. Objectif, favoriser la reproduction piscicole. Pierre Voltier fêté aujourd'hui à Serre-Chevalier et Chantemerle, le haut alpin qui vient célébrer son deuxième titre de champion olympique. Mais pour commencer, un mineur a été interpellé fin janvier et mis en examen. Il sera prochainement jugé pour violence, vol et dégradation. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017 à Villeneuve, plusieurs individus encagoulés ont agressé un homme regagnant son domicile en cyclomoteur. Dans la même nuit, plusieurs voitures stationnées dans le village ont été volontairement dégradées. Enfin, un vol par effraction a été commis dans une résidence secondaire. Les individus s'y sont introduits en enlevant les tuiles et en dégradant le faux plafond. Ils y ont dérobé divers objets et mis le feu à plusieurs meubles. Le mineur interpellé a reconnu les faits, mais l'enquête se poursuit pour retrouver ses complices. Braconnage d'un chevreuil sur la route qui relie Rabou à Gap. Les faits ont eu lieu dans la nuit du 14 au 15 février. Un automobiliste témoin de la scène a contacté les services de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'ONCFS rappelle que le braconnage est puni de 15 000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se désengage financièrement des chantiers d'insertion. Il propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi en grande exclusion sociale en vue d'une réinsertion. Mais dans les Hautes-Alpes, la sonnette d'alarme est tirée. Depuis 2016, la collectivité régionale recule, regrette le collectif des actions d'utilité sociale 05, un réseau départemental qui existe depuis plus de 15 ans et regroupe 11 structures d'insertion. Cyrielle Michard.
9 chantiers d'insertion sont répartis sur les Hautes-Alpes, à Briançon, Saint-Martin-de-Carrière, Embrun, Gap, Laragne-Montéglin ou encore Vennes. Des chantiers que l'on retrouve quotidiennement, soit dans les ressourceries, l'entretien d'espaces naturels, les travaux de menuiserie, le maraîchage biologique, le bâtiment ou encore l'hébergement et la restauration. C'est donc en tout plus de 180 recrutements chaque année dans le département qui permettent à plus de 400 personnes d'exercer une activité en CDD. Des chantiers d'insertion qui vivent aujourd'hui essentiellement des subventions publiques car leur vocation première n'est pas la productivité. D'ailleurs, la loi leur interdit de dépasser un taux d'autofinancement de 30%. Dans les Hautes-Alpes, un tiers du budget de ces structures provient des aides au poste versées par l'État. Vient ensuite le département avec 450 000 euros au titre de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, puis la région qui abonde entre 6 et 8% du budget avec 500 000 euros. Mais désormais, le message de Marseille est clair. Nous procédons à un désengagement progressif d'ici à l'année prochaine. Désengagement qui a déjà commencé puisque les aides au chantier d'insertion de 7 millions d'euros au niveau régional, soit 0,3% du budget total, ont été divisées par deux. Pour la majorité de Renaud Muselier, le bébé des chantiers d'insertion doit changer de sein, à charge des départements de s'en occuper. Une décision considérée comme brutale et unilatérale par le réseau des chantiers d'insertion qui craint que 5000 salariés au niveau régional se retrouvent sur le carreau, alors que selon lui, il permet à plus de 47% de chômeurs longue durée de trouver chaque année un emploi, une formation, voire même de créer leur propre entreprise.
Merci Cyrielle. Les droits de l'homme n'ont pas été bafoués dans les Hautes-Alpes, c'est la réponse de la préfète Cécile Bigot de Kaiser. Elle était l'invitée d'Au bout de l'actu hier soir. Pour rappel, l'État a été saisi la semaine dernière par le barreau des Hautes-Alpes. Selon les avocats, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans le département. Certains migrants auraient été obligés par la PAF à signer un document pré-rempli au terme duquel ils renonçaient à leurs droits. La préfète assure ne pas avoir connaissance de ce document. Cécile Bigot de Kaiser qui annonce également qu'il n'y aura pas de bonification à 50% des indemnisations après les pertes d'avril dernier lors des gelées noires dans les exploitations arboricoles. Un programme d'investissement réclamé pour l'abattoir de Gap, c'est le message des professionnels de la filière viande hier à l'occasion de la visite de la sénatrice des Hautes-Alpes Patricia Moret-Richaud. Un abattoir créé dans les années 80 qui n'a subi qu'une seule rénovation en 2005. Pourtant, le volume d'activité ne cesse d'augmenter. Gaël Pia.
Dans l'abattoir de Gap ici, on abat 500 porcs par semaine, 250 agneaux et 80 bovins pour 120 clients. 1 million d'euros, c'est le chiffre d'affaires de cette structure qui réserve 4,5% de ses bénéfices pour améliorer les équipements et respecter les normes en vigueur. Mais aujourd'hui, l'outil est vieillissant, mal adapté au volume de production et aux nouvelles attentes sur le bien-être animal. Bruno André, le président de la SICABA, la société qui exploite cet abattoir de Gap.
Il faut rénover en priorité la partie stockage des animaux vivants. La porcherie n'est plus vraiment adaptée au volume traité par l'abattoir. Il faudra rénover le sol du hall d'abattage, tout ce qui est la chaîne ovine avec le poste éviscération et dépouille. Et puis la partie frigo.
Des travaux qui seront à partager avec la mairie, propriétaire des murs.
On a lancé deux études, une étude sur la chaîne porc spécifiquement et on va lancer une deuxième étude pour étudier la rénovation globale de l'abattoir qui va être réalisée par une société qui est dans le Rhône, qui va chiffrer un petit peu tout ça. Mais je pense que ça sera coûteux.
L'exploitant, la SICABA, est prête à lancer rapidement et à ses frais la rénovation de la chaîne porcine. Une nécessité observée par la sénatrice des Hautes-Alpes, Patricia Morin-Richaud.
On se rend bien compte qu'il est productif, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il y a un volume de 3600 bêtes qui sont abattues chaque année. Donc oui, il faut inévitablement investir pour pouvoir continuer d'évoluer.
La parlementaire qui a également parlé structuration de la filière, développement du bio, valorisation des déchets. Patricia Morin-Richaud qui prépare l'examen de la loi qui fait suite aux états généraux de l'alimentation.
Merci Gaëlle. Le plan loup 2018-2023 a été publié hier par les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture. Objectif, atteindre la population des 500 canidés d'ici la fin du quinquennat. Un plan qui permet d'abattre du 1er janvier au 31 décembre 2018 40 animaux. Il sera ensuite porté à 10 à 12% de la population de loups par an. De plus, des tirs pourront être autorisés par le préfet, mais je cite « au-delà des plafonds en cas de situation exceptionnelle ». Concernant les tirs de loups, les modalités évoluent également, tirs de défense facilités, alors que les tirs de prélèvement, eux, ne pourront s'effectuer que du 1er septembre au 31 décembre sur des territoires caractérisés par l'importance des attaques. Autre condition, la conditionnalité des indemnisations après une attaque. Pour être dédommagés, les éleveurs doivent avoir mis en place des mesures de protection. Un plan qui doit donner lieu à de nouvelles études pour mieux connaître le canidé, son impact sur les écosystèmes, l'efficacité des tirs sur la prédation. Environnement encore avec cette opération de décolmatage de la Durance. Aujourd'hui, pour lutter contre le dépôt de limon et favoriser ainsi la reproduction piscicole, EDF va progressivement augmenter le débit entre les barrages de l'Escale et de Cadarache. Norbert Schalterbrand est en charge des opérations de décolmatage de la Durance chez EDF.
Depuis ce matin 7h30, les agents d'EDF ouvrent progressivement une vanne au barrage de l'Escale afin d'augmenter le débit à l'aval de ce barrage entre l'Escale et Cadarache. On a habituellement, à cette époque de l'année, un débit de 6 mètres cubes par seconde. Il va être multiplié par 10 pour atteindre 70 mètres cubes par seconde vers 9h du matin. Et donc cette augmentation significative du débit va avoir pour effet de décolmater le fond de la rivière par l'effet hydrodynamique de l'eau, comme un petit peu dans une machine à laver. Tout au cours de l'année, ces dépôts qui sont amenés par les épisodes météorologiques naturels colmatent le fond de la rivière et diminuent l'oxygène disponible dans l'eau pour les poissons. Aujourd'hui, la date a été choisie par rapport à la début de la reproduction de certaines espèces piscicoles, notamment le chevesne et le barbeau dans ce secteur de rivière.
Il est demandé la plus grande prudence et d'éviter toutes les activités nautiques sur cette portion entre l'Escale et Cadarache. Du sport et Romaric Pons, Pierre Voltier est de retour dans les Hautes-Alpes pour célébrer son deuxième titre de champion olympique. C'est dès 19h, place du téléphérique à Chantemerle.
Pierre Voltier fêté aujourd'hui à Serre-Chevalier et Chantemerle après son exploit à Pyeongchang où il a défendu victorieusement son titre olympique en Corée du Sud dans l'épreuve de snowboard cross. Pierre Voltier joint hier par téléphone qui a eu à peine le temps de savourer sa médaille d'or. Écoutez-le.
Pour l'instant, c'est assez confus, la saveur de cette médaille. Mais je pense que quand je vais rentrer à la maison, les choses vont se poser. Enfin, j'espère. Enfin, c'est ce que je crois. Et puis je vais pouvoir un petit peu la concrétiser.
Pierre Voltier, dominateur sur sa finale en tête de bout en bout, contrairement à sa demi où il a chuté avant de se relever à temps pour se qualifier. Le snowboarder de Serge Chevalier qui assure que malgré l'impression de maîtrise qu'il a donnée, sa finale n'a pas été si sereine que cela sous son casque.
En demi-finale, j'ai quand même eu sacrément chaud. Là, j'étais hors contrôle, hein, avec une grosse chute. Disons que le reste, c'était relativement sous contrôle, mais c'était d'extérieur, je pense. Parce que d'intérieur, dans l'inside, j'ai quand même eu des soucis. J'ai douté sur mon matériel, j'ai douté sur ma stratégie, j'ai douté sur mes capacités. Je voulais gagner cette course, mais en même temps, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je devais mettre en place pour la gagner. Donc, j'y suis allé plus à l'instinct qu'autre chose.
Pierre Voltier qui s'accorde donc 4 jours off en famille à Serge Chevalier avant de repartir sur le circuit Coupe du Monde où il vise un 6e globe de cristal. Voltier, actuel leader au championnat, qui va tout de même savourer son titre avec ses fans ce mardi, tout en essayant de rester focus sur son dernier objectif de la saison.
La remobilisation après une performance comme ça, il faut qu'elle soit rapide. Il ne faut pas qu'il y ait trop de transitions. J'ai moins d'une semaine à la maison. Ce sera l'occasion de vivre cette consécration à Sercheux avec les gens qui m'entourent, avec les gens qui ont cru en moi, avec les gens qui ont vibré pour cette médaille. Ça, c'est très important pour moi aussi de leur rendre. Et après, je repartirai plein de motivation pour cette fin de Coupe du Monde.
Voilà, Pierre Voltier, donc attendu aujourd'hui à Chantemerle et Serge Chevalier. Le programme olympique, lui, continue à Pyeongchang avec demain le sprint par équipe en ski de fond. Le fondeur de Montgenèvre, Richard Jouff, tentera d'ailleurs de créer la sensation en accrochant, pourquoi pas, une médaille avec la sélection tricolore, début des hostilités demain à 11h.
Merci, Romaric.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.